Bonjour à toutes et à tous à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h.
Le journal, en français facile.
Adrien Delgrange.
16h en temps universel, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. Voici les titres de ce mercredi 28 mai. 600. Après 600 jours de guerre à Gaza, des Israéliens ont manifesté aujourd'hui. Ils ont notamment bloqué le centre de Tel Aviv pour demander la fin de la guerre et le retour des otages. Au sommaire également, nouvelles difficultés et de taille pour les étudiants étrangers souhaitant faire des études aux États-Unis. Donald Trump décide de ne plus leur délivrer de visa papier obligatoire pour pouvoir entrer aux États-Unis. Et puis enfin, nous parlerons de sport et nous irons prendre les dernières nouvelles au tournoi de tennis de Roland-Garros. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les Palestiniens de Gaza méritent plus que de survivre, insiste l'ONU. Les civils, des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec la guerre, ont perdu tout espoir. Au lieu de dire au revoir et à demain, les Palestiniens de Gaza disent désormais à bientôt au paradis. C'est ce qu'a déclaré Sigrid Kaag, une des porte-paroles de l'ONU. Aujourd'hui, 28 mai, cela fait 600 jours que la guerre a éclaté entre Israël et le Hamas. À l'appel du Forum des familles, principale organisation israélienne qui demande un cessez-le-feu qui permettrait notamment la libération des otages, des centaines de personnes se sont réunies aujourd'hui à Tel Aviv. Reportage Michel Paul.
600 jours après, les Israéliens restent tournés vers les événements du 7 octobre 2023. En masse, ils se mobilisent pour le retour des otages et nombreux sont ceux qui demandent également de nouvelles élections. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la fin d'une guerre considérée par beaucoup comme purement politique et parfois avec des mots très forts. C'est le cas de Ron Ostreicher face à la Knesset, le Parlement israélien.
Je pense qu'Israël commet à Gaza des crimes de guerre, un génocide, et cela doit s'arrêter immédiatement. Israël aurait dû fournir de la nourriture et de l'eau en abondance depuis bien plus longtemps et de manière bien plus ordonnée. Et comme Israël est incapable de le faire, il n'a rien à chercher à Gaza.
Plus nuancé, Tali arbore une pancarte demandant l'arrêt des combats.
Ils touchent des civils, beaucoup de civils qui ne sont pas impliqués. Ils ne le font pas de manière préméditée, mais ils pourraient éviter de le faire. Il faut arrêter la guerre, ramener les otages et trouver une solution politique entre le peuple palestinien et le peuple israélien.
Mais il y a aussi des Israéliens qui tentent de manière active d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. C'est notamment le cas des militants de l'organisation Tzav Teisha qui bloquent ces derniers jours des convois de camions en route pour l'enclave palestinienne. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et après les images qualifiées de déchirantes hier par l'ONU où l'on voit des Gazaouis affamés qui ont pris d'assaut un centre de distribution à Rafah, la Fondation humanitaire de Gaza, l'organisation qui a été mandatée par Israël pour assurer la distribution de nourriture à Gaza, a décidé aujourd'hui de marquer une pause pour, dit-elle, renforcer la sécurité de ses installations. Et puis enfin, cette annonce du Premier ministre israélien aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, affirme qu'Israël a tué, comprendre, éliminé Mohamed Sinwar, chef présumé du Hamas.
Le journal en français facile.
Ce nouveau drame au large des Canaries. Un bateau chavire. À l'intérieur, plusieurs hommes, femmes et enfants qui cherchaient à immigrer en Espagne. Le bateau se trouvait à quelques kilomètres du port de la Restinga lorsqu'il s'est retourné. Au moins 7 personnes sont mortes, 4 femmes dont 3 enfants qui se sont noyés sous les yeux des services de secours. 8 autres personnes ont pu être hospitalisées. On ne connaît pas encore la nationalité des victimes. L'actualité nous emmène à présent aux États-Unis, où l'administration de Donald Trump poursuit sa fronde, son offensive contre les universités américaines et plus particulièrement contre les étudiants étrangers qui voudraient venir apprendre aux États-Unis. Lila Olkinwara, bonjour.
Bonjour Adrien.
Dans une lettre datée d'hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio demande la suspension du traitement des demandes de visa pour les étudiants étrangers.
Oui, cette suspension pourrait durer plusieurs jours et aux étudiants qui se demandent s'ils recevront leur visa avant la rentrée de septembre, la porte-parole du secrétaire d'État américain Marco Rubio répond « Suivez le processus normal et attendez-vous à être passé au crible ». En effet, le gouvernement américain veut conditionner l'attribution, l'octroi des visas à un contrôle complet des publications des étudiants sur leurs réseaux sociaux. Leurs comptes Instagram, X et TikTok seront scrutés à la recherche de contenus jugés menaçants pour la sécurité nationale. Une nouvelle étape par rapport aux mesures de contrôles actuelles de l'administration. Pour l'instant, n'étaient visés que les étudiants qui avaient participé à des manifestations pro-palestiniennes dans les campus américains.
Alors, Lila, cette nouvelle mesure pourrait mettre en danger les universités américaines.
Oui, aux États-Unis, il y a plus d'un million d'étudiants étrangers. Par an, cela représente plus de 43 milliards de dollars de retombées pour l'économie américaine. Et de nombreuses universités dépendent de ces étudiants à l'origine d'une part considérable de leurs revenus annuels. La directive est aussi un pas de plus dans la guerre de Donald Trump contre les universités, notamment Harvard, l'école prestigieuse à qui il vient d'interdire l'accueil des étudiants étrangers, lui reprochant sa complaisance envers l'antisémitisme et des liens avec le Parti communiste chinois.
Lila Olkinouara dans votre journal En français facile. Enfin, sachez que la Chine appelle aujourd'hui les États-Unis à protéger les droits des étudiants étrangers, notamment chinois. 18h06 à Paris. Dans l'actualité française, à la page justice, Joël Le Squarnec condamné à 20 ans de prison. C'est le verdict de la cour criminelle du Morbihan qui est tombé à la mi-journée. L'ancien médecin est accusé d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes, essentiellement des enfants. Quand la France exporte un lieu culturel, un centre Pompidou va ouvrir ses portes au Brésil dans un peu plus de 2 ans. Ce musée d'art moderne verra le jour fin 2027 près des chutes d'Iguaçu, annonce aujourd'hui les deux ministres de la culture, brésilien et français. Le futur centre Pompidou brésilien sera réalisé par l'architecte paraguayen Solano Benitez, spécialiste de la brique et des matériaux bruts. À la page sportive, juste avant de filer à Roland-Garros, en espérant que cette annonce ne leur porte pas malheur. En cas de victoire samedi soir du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, et seulement en cas de victoire, les joueurs du Paris Saint-Germain seront autorisés à parader dimanche sur les Champs-Élysées. PSG Inter de Milan à Munich, samedi soir, une finale à vivre en direct sur Radio France Internationale. Parlons sport, tennis, où les tenants du titre ont aujourd'hui gagné leur match. Je vous parle notamment de la Polonaise Iga Swiatek et de l'Espagnol Carlos Alcaraz. Babacar Diarra, bonjour.
Bonjour Adrien.
Chez les Français, ça passe pour Quentin Alice en 4 manches. En revanche, pour Giovanni Mpici-Pericard, c'est un peu plus difficile.
Mpici-Pericard vient de se ressaisir, en tout cas en empochant la 3e manche 6-4 face au Bosnien Damir Djoumour. Il avait laissé échapper les 2 premières 7-6-6-3. Et là, il y a un temps mort médical parce que Djoumour a vu son genou tourner suite à un mauvais appui. Alors, il va reprendre place sur le court. Mais dans quel état va-t-il pouvoir défendre ses chances face au Français de 21 ans, gros serveur, et qui paraissait, il y a à peu près une heure, perdre son tennis avec un nombre incalculable de fautes directes avec des coups envoyés dans le filet ou dans les pots de fleurs en bord de terrain. Ce n'est pas faute en tout cas d'être encouragé par un court Suzanne Lenglen dans une ambiance plutôt familiale. Sachez en tout cas qu'un premier Français s'est qualifié pour le 3e tour cet après-midi. C'est Quentin Alice, vainqueur en 4-7 du Serbe Kekmanovic.
Merci beaucoup Babacar Diarra en direct de la Porte d'Auteuil à Paris pour nous faire vivre ce tournoi du Grand Chelem. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur un site internet françaisfacile.rfi.fr. À Paris, il va être 18h10.